Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le nouveau livre de Pierre Abramovici s'intéresse à Monaco sous l'occupation, un épisode passionnant de l'histoire de la principauté que Franck Ferrand a choisi d'évoquer aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. À chaque fois que Pierre Abramovici est venu dans cette émission, il nous a littéralement ouvert les yeux sur des aspects sidérants de l'histoire contemporaine. Je ne pense pas qu'il fasse mentir sa réputation cet après-midi. Son beau livre sur Monaco pendant l'occupation est plein de révélations passionnantes.
Et tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Michael sur les origines de l'expression « se faire dorer la pilule ».
Mais ça c'est une question amusante en période de vacances. Pour le moment, ce sont des vacances moins sympathiques que je vous propose, puisque nous allons nous retrouver certes à Monaco, mais en novembre 1942.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Avant le déclenchement de la guerre, le 17 mars 1939, on se répète de bouche à oreille la nouvelle du jour ou du soir, le maréchal Göring serait en visite à Monaco. En vérité, il n'est resté qu'une heure dans la principauté. Officiellement, le ministre de l'aviation du Reich n'est venu faire que du tourisme, il est venu assister, dit-on, à une traditionnelle bataille de fleurs. Notons qu'aucune trace du haut dignitaire nazi n'existe sur les photos de la fameuse bataille de fleurs. À l'évidence, Hermann Göring avait d'autres chats à fouetter au moment de cette manifestation folklorique, d'où la question: que venait-il donc faire à Monaco 5 mois avant le début du conflit? Certains en sont convaincus, Göring voulait faire des pays du sud de l'Europe, et tout particulièrement de Monaco, un véritable pôle d'investissement pour le Reich. Il n'était du reste pas le seul. C'était une politique générale de cette Allemagne de l'époque. Cet objectif, l'entrée de l'Europe dans la guerre, loin de le freiner, aurait plutôt tendance à l'accentuer. Or, les affaires ne faisant pas bon ménage avec d'éventuelles troupes d'occupation, les Allemands vont se faire particulièrement discrets à propos du rocher dans les premières années de la guerre. Ils respectent officiellement la neutralité monégasque. Et même au moment du basculement du conflit en Europe avec l'invasion de la zone libre en novembre 1942, ils vont agir par alliés interposés. Et je m'explique, ou plutôt je vous emmène à Monaco, un certain mercredi 11 novembre 1942, il est midi. À cette date, la principauté n'est donc toujours pas occupée. Une centaine de personnes, qui pour la plupart ont des liens avec le mouvement gaulliste, viennent commémorer le 11 novembre sur les quais du port de Monaco, sur un des quais en tout cas. Ces gaullistes ont le sourire, puisque 3 jours plus tôt, les alliés viennent de débarquer en Afrique du Nord. Vous savez, cette opération torche qui marque le véritable basculement de la guerre côté occidental. En même temps, ces gens-là ne sont pas rassurés. Il y avait des fascistes notoires qui se promenaient aussi, raconte Joséphine Costa. Ils nous regardaient avec un petit sourire ironique. Ce sourire ironique a quelques raisons, forcément. À 14h, un bruit sourd de moteur se fait entendre à la frontière monégasque. Quand on parle de frontière monégasque, évidemment, on a toujours tendance à sourire un peu. Vous savez que c'est Colette qui disait de Monaco qu'il était le seul État au monde dont les frontières fussent des plates-bandes, disait-elle. Des fleurs. Il s'agit en l'occurrence des troupes italiennes, des troupes de Mussolini en provenance de Menton. Et là, pendant 3 jours, les Monégasques vont assister au défilé des troupes du Duce. Le vice-consul de France, Olivier Delot, raconte: ils sont arrivés par le boulevard d'Italie et par le boulevard des Moulins, les grandes avenues, et ils sont venus jusque vers le cœur de Monte-Carlo dans un ordre relatif, et puis les itinéraires qu'ils ont utilisés leur ont fait traverser des rues étroites, ce qui a fait que les convois militaires, les canons tractés, ont eu quelques problèmes pour amorcer les virages. Ils ont été obligés de faire des manœuvres ou des marches arrière hasardeuses, ce qui réjouissait les gamins du port qui s'amusaient de ce spectacle un peu désordonné. Les Monégasques, devant cette invasion, ont un sentiment partagé. Certains pensent que les troupes italiennes ne font que passer par Monaco pour aller porter main forte aux Allemands qui envahissent la zone sud française, donc en réaction à ce débarquement allié d'Afrique du Nord. Mais, pense-t-on, ils n'auraient pas l'intention de rester. Ils y croient d'autant plus que Monaco, encore une fois, a le statut d'État neutre. D'autres sont beaucoup plus sceptiques. nettement plus réaliste aussi. Ça fait des mois que la crainte d'une annexion italienne se fait de plus en plus menaçante. Ça fait plusieurs années que les fascistes italiens sont nombreux, sont actifs en principauté. La plupart sont des ouvriers, des commerçants qui résident à Beausoleil, la ville dortoir qui n'a rien à voir avec Monte Carlo et son carré d'or, ses casinos, les grands cafés, les restaurants de luxe avec les banques. Dès la fin des années 1920, c'est-à-dire seulement quelques années après l'arrivée au pouvoir de Mussolini en Italie, en 1922, la Casa Italiana, la maison italienne, a été créée à Monaco. Elle est devenue un refuge pour justement tous ces transfuges, si je puis dire. Depuis 1938, presque quotidiennement, des bagarres entre fascistes et antifascistes éclatent dans la principauté et dans sa proche banlieue, vous l'aurez compris. Bien entendu, l'armistice signé entre l'Italie et la France en juin 1940 a ravivé les tensions. Menton, vous le savez, a été annexé. La commission italienne d'armistice, commission avec la France, a mis en place tout un réseau d'espionnage, de propagande. On distribue des drapeaux aux Italiens favorables au fascisme pour pavoiser en cas d'entrée des troupes de Mussolini. Et donc, dans la nuit du 27 au 28 octobre 1940, un adolescent de 18 ans a été tué à Monaco après avoir été frappé par des fascistes. Les manifestations en faveur de Mussolini sont de plus en plus nombreuses dans les rues. Donc, vous voyez que le climat devenait particulièrement pesant. Malgré l'arrivée d'un nouveau consul royal, un consul italien, Stanislas Lepri, en décembre 1941, on a constaté une volonté d'apaisement du côté de l'Italie, volonté d'apaisement entre Vichy et les Italiens, bien entendu. Les Monégasques ont vécu tout au long de l'année 1942 avec cette peur néanmoins de l'annexion. On assiste même à certains actes de résistance. Par exemple, le groupe d'art moderne de Monaco organise une exposition intitulée « Un art nouveau dans un monde libre ». Et l'affiche représente l'Empire State Building, qui est le symbole même de l'Amérique. Autant dire donc que ce 11 novembre 1942, bon nombre de Monégasques ne sont pas surpris par l'entrée des troupes italiennes dans la principauté. Dans les heures qui suivent l'arrivée des troupes de Mussolini, donc ce 11 novembre 1942, les sympathisants fascistes se précipitent dans les rues pour fêter cette entrée des Italiens. Un témoin des événements, toujours notre Joséphine Costa, raconte « Il y avait des quantités d'Italiens, des Français fascistes, des Monégastes fascistes. Ils étaient tous là à lancer des fleurs, des cigarettes, à applaudir, à crier « Vive Mussolini, vive l'Italie, Monaco italienne, dehors les Grimaldi !» En italien, évidemment. Les commerçants italiens pavoisent désormais aux seules couleurs italiennes, ce qui est tout à fait contraire à la juridiction monégasque, qui exige le drapeau monégasque dans toute forme de pavoisement sur place. Un couvre-feu est instauré, les salles de spectacle sont donc fermées. Ce n'est en vérité que le début d'une occupation italienne de Monaco, occupation qui va durer 9 mois.
Sur Europe 1, extrait de la bande originale du film de 1968, Quand les aigles attaquent, avec Richard Burton et Clint Eastwood, une musique de Ron Godwin. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la principauté de Monaco occupée en 42.
Oui, et dès le 14 novembre 1942, le ministre d'État, il s'appelle Émile Roblot. À ce moment-là, on va beaucoup en reparler tout à l'heure avec Pierre Abramovici, car c'est un homme qui a joué dans cette période et dans ces événements un rôle considérable. Roblot informe le régime de Vichy que le consul d'Italie, Stanislas Lepri, lui a notifié de la la part de l'armée italienne l'occupation militaire de la principauté. Ce n'est pas tout. Les prix ajoutent que le gouvernement princier doit remettre à l'autorité occupante la liste de tous les étrangers résidant à Monaco, puis procéder à l'expulsion de certains d'entre eux. Ce que j'ai besoin de préciser, que le consul des États-Unis est en tête de cette liste. Pendant ce temps, les troupes de Mussolini se déploient dans des endroits stratégiques. Les Italiens sont au stade Louis II, sont sur un quai du port où se trouve le siège de la Société des Conférences. Ils s'installent dans l'immeuble de l'ancienne International Sporting Club, dans les grands hôtels de la principauté. Bref, on sait très bien comment se comportent les occupants dans ce genre de circonstances. Et des débordements ne vont pas tarder à se produire. Le 17 novembre, un civil italien accompagné de deux soldats en armes qui contrôlent les pièces d'identité des passants. Ce civil est interpellé par la police. Il est inculpé d'usurpation de fonction. Il est déféré au parquet et écroué à la maison d'arrêt de Monaco. Quelques heures plus tard, un détachement d'Italiens, des hommes en armes, conduit par un employé du consulat d'Italie, se présente à la prison et exige du gardien l'ouverture de la porte. Alors le gardien refuse, la porte est enfoncée, les soldats se précipitent à l'intérieur et le fameux suspect est libéré. Le même jour, en fin d'après-midi, un détachement d'une centaine de soldats italiens encercle la Villa Alexandra qui est le siège du nouveau consulat des États-Unis à Monte-Carlo. Le consul, le personnel sont enfermés au second étage et au même moment, le consul d'Italie présente les exigences nouvelles, les exigences italiennes sous forme d'un ultimatum. Un général assurera dans 2 heures les pouvoirs civils de la principauté dans le cas où le gouvernement monégasque persisterait dans son refus de collaborer avec les forces armées italiennes. Autant dire que le gouvernement princier n'a pas le choix et qu'il cède. Le consul des États-Unis est transféré dans un pavillon dépendant de son hôtel. Il ne peut plus communiquer avec l'extérieur. Il va être envoyé quelques jours plus tard dans un camp d'internement en Italie. Désormais, c'est la peur qui s'installe réellement à Monaco. Des barbelés sont installés en prévision d'un débarquement anglo-américain depuis le sud, hein, puisque après tout a eu lieu ce débarquement d'Afrique du Nord qui, de semaine en semaine, se révèle de plus en plus efficace et victorieux. Les monégasques ont peur des rafles, des perquisitions. Les Anglais, les Américains qui se trouvent là, les étrangers d'une manière générale, sont particulièrement visés. Et voilà ce que nous dit Pierre Abramovici dans Monaco sous l'occupation, je le cite, « Le mois de novembre s'achève dans un climat d'angoisse indescriptible, d'autant que les Italiens procèdent à une vague d'arrestations qui touche tout le monde, monégasques, français, italiens antifascistes. Des dizaines de personnes sont appréhendées et conduites pour la plupart dans un camp d'internement ouvert à Sospel dans l'arrière-pays niçois. » Le 18 décembre 42, donc un peu plus d'un mois après l'arrivée des troupes italiennes, le prince de Monaco, le prince Louis, qui avait envoyé quelques jours plus tôt un message secret au pape Pie XII pour lui demander d'intervenir auprès du gouvernement italien afin de maintenir le statut neutre de la principauté, le prince Louis écrit au maréchal Pétain. Par ordre probablement du consul, écrit-il, des centaines de drapeaux italiens ont paru aux fenêtres tandis qu'il était interdit aux nombreuses vieilles familles d'arborer les couleurs monégasques. Par ailleurs, ma petite fille, il parle de la princesse Antoinette, et moi avons été hués et sifflés dans la rue par des énergumènes transalpins. J'aime bien cette expression, les énergumènes transalpins. Ça restera ça pour désigner ces Italiens qui ne respectent plus rien ni personne. Et c'est dans ce climat particulier que peu à peu la vie va devoir reprendre à Monaco. Le seul casino de Monte-Carlo reste ouvert. Il attire d'ailleurs du monde, hein, notamment au moment des fêtes de fin d'année. Vous imaginez à Noël, au jour de l'an. Et pendant ce temps, les festivités officielles vont reprendre tant bien que mal, de même que les soirées de gala, les ventes aux enchères, presque comme si de rien n'était. Les Italiens commencent aussi à réfléchir à tout ce que ça peut rapporter, bien entendu, parce qu'on a beau dire, cette principauté de Monaco et notamment ses entreprises de Monte-Carlo sont particulièrement rentable. Les Italiens songent à racheter des entreprises, à prendre des participations dans les secteurs industriels et commerciaux. Les hôtels de luxe les intéressent tout particulièrement. Or, les Italiens, et nous avions eu l'occasion déjà d'en dire un mot ici avec Pierre Abramovici, les Italiens ont un intermédiaire français, il s'appelle Dupasquier, c'est un riche industriel du textile, qui a notamment collaboré avec les nazis pour la création d'une banque internationale qui va avoir une activité très particulière. Le 6 janvier 1943, à l'heure du déjeuner, des détachements de marins des flottes de guerre allemandes et italiennes vont saisir les bateaux de plaisance stationnés dans le port de Monaco. Une douzaine de bâtiments quittent Monaco. On les a amarrés les uns aux autres, hein, ça fait comme une sorte de chapelet si vous voulez. Et quelques jours plus tard, le sous-directeur du musée océanographique est arrêté par des fascistes. Son crime, avoir arboré le drapeau de la Pologne et le drapeau britannique. Le mardi 2 février, donc là nous avançons dans l'année 1943, donc le 2 février c'est le jour de la Chandeleur, les Italiens vont procéder à une nouvelle série d'arrestations, une vague d'arrestations qui se poursuit ensuite jusqu'au printemps. Des dizaines de monégasques, encore une fois de Français, d'Italiens antifascistes, sont arrêtés, sont expédiés au camp d'internement dans l'arrière-pays niçois et puis dans les Hautes-Alpes. Il y a même parmi les gens qu'on arrête un certain nombre de pétainistes qui sont réputés tels. À la même époque, la population monégasque commence à souffrir des restrictions. On rationne le vin. Évidemment, dès que vous avez des restrictions et des rationnements, c'est le marché noir qui se met à prospérer dans les hôtels, dans les restaurants, où les prix commencent à atteindre des sommets. Et pendant ce temps, on voit s'organiser progressivement la résistance. Il va falloir pas mal de temps pour que cette résistance s'organise à Monaco. Le réseau le plus actif, il est bien connu, c'est le réseau Reims-Rémy. Son chef est arrêté en mai 43 par la police française, mais le réseau est rattaché au service de renseignement gaulliste à Londres. C'est un réseau qui collecte toutes sortes de renseignements, des renseignements militaires sur les fortifications, les mouvements de troupes et les mouvements de bateaux également, mais aussi des renseignements d'ordre politique et d'ordre économique. Un agent employé à la SNCF contrôle tous les passages de trains militaires en gare de Monaco. Deux autres sont postés dans la grande gare de la Principauté à Monte-Carlo sous le casino. Et donc ça permet tout ça d'établir des rapports. Et ces rapports sont envoyés chaque semaine à Londres. Un fichier de renseignements, de photos est tenu à jour sur tous les collaborationnistes de... Enfin, pas tous, mais enfin tous ceux qu'on a pu repérer en tout cas, sur les Allemands, sur les Italiens bien entendu. Et 25 agents de ce réseau sont maintenant à pied d'œuvre dans la principauté de Monaco qui résiste à l'occupant, je précise encore une fois pour ceux qui nous rejoindraient notamment, à l'occupant italien.
Excellent après-midi avec nous sur Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire. Je vous rappelle que nous attendons vos messages. Vous pouvez réagir, poser vos questions via la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter également, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Nous serons de retour à Monaco dans un instant avec vous, Franck Ferrand, pour continuer de parler de la principauté victime de l'occupation italienne pendant la Seconde Guerre mondiale.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le rocher occupé est au cœur de l'histoire. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, sur la résistance qui s'organise face à l'oppression italienne.
Et oui, et cette résistance se recrute notamment dans les réseaux proches du Parti communiste, chez les antifascistes tout simplement. C'est très intéressant, parmi les nombreux documents qui sont présentés dans cet ouvrage de Pierre Abramovici, il y a énormément de témoignages et ça permet de comprendre un peu mieux comment étaient vécues les choses. Alors voici ce que dit par exemple Albert Souto, qui fait partie du groupe Main-d'œuvre immigrée. La gendarmerie italienne avait un poste. Ils passaient tous les jours, ils apportaient et ramenaient le courrier, ils passaient par la grande corniche. La première chose qu'on m'a demandé, c'était pour voir, parce que j'étais jeune, de leur envoyer une boîte de petits pois remplie de poudre noire avec des boulons dedans. On m'a dit que je ne tuerais personne. Cette poudre noire, ça a fait un bruit terrible, une fumée infernale. Les Italiens sont partis dans le décor, mais je ne pense pas les avoir tués, dit ce monsieur, avec une certaine bonne conscience. De même, Souto doit trouver une cache pour des explosifs que la résistance communiste lui a confiés. Il crée un club de danse sous lequel sont dissimulés des pains de plastique, de la nitroglycérine. Des bombes sont posées, des maquis sont constitués autour de la principauté. Et le 1er mars 1943, le commandement militaire italien constate que 3 fils téléphoniques d'une ligne militaire ont été coupés. On en est convaincu du côté italien, il s'agit d'un acte terroriste, comme on dit dans ce genre de circonstances. La sanction est immédiate, un couvre-feu est institué à compter du 3 mars, de 21h à 6h du matin, et l'affiche est collée sur tous les murs de la principauté. Personne ne peut ignorer que désormais la ville est sous couvre-feu. Seuls pourront circuler les agents de la sûreté publique, les sages-femmes et les médecins, comme dans tout couvre-feu. Toute autre personne est immédiatement arrêtée. Le 16 mars, le commandement italien annonce que le littoral doit être considéré comme zone de combat. Ça se corse, si je puis dire. Quelques heures plus tôt, un bateau allemand, c'est vrai, a été torpillé dans le port de Monaco par les Britanniques. Donc, à partir de ce moment-là, on prend des mesures de rétorsion. D'autre part, les autorités italiennes savent qu'au même moment, de l'autre côté de la Méditerranée, les Alliés sont en train de prendre définitivement le dessus sur l'Africa Corps de Rommel et sur les Italiens. Et donc, à partir du moment où les Alliés sont en train de gagner en Méditerranée, vous imaginez la crispation sur le littoral, et à Monaco en particulier. Les 1er et 2 mai 43, la principauté est incluse entièrement dans la zone des combats. Le 15 mai, 3 jours après la capitulation de l'armée germano-italienne en Tunisie, un sous-marin torpille un navire italien au large de Monaco. Une partie de l'équipage allemand ne va pas survivre et à ce moment-là, évidemment, ça crée une tension supplémentaire à Monaco. Des bateaux partis du port de Monaco vont ramener les 25 survivants dans un hôpital de la principauté. Quelques jours plus tard, 6 restaurants, 2 salons de thé sont fermés pour, je cite, « infraction à la législation sur le ravitaillement et détention de denrées contingentées sans justification d'origine ». Le régime, là, devient vraiment très, très lourd et très dur. Depuis le début de l'occupation italienne, les monégasques remarquent de plus en plus d'Allemands dans les rues de la principauté. Le 25 juin 43, l'Allemagne ouvre carrément un consulat général à Monaco. C'est très important, c'est la première fois que ça a lieu depuis la Première Guerre mondiale. Et ça ne tient absolument pas du hasard. Les Italiens sont en passe de perdre la guerre. Les Allemands s'apprêtent à prendre la relève. Le 1er juillet, et ça c'est intéressant de voir que ça naît dans ce contexte, et ça n'est pas tout à fait étranger à notre propre histoire ici à Europe 1, le 1er juillet, Radio Monte Carlo est inaugurée par Maurice Chevalier après plusieurs années de tractations. Selon le journal Rive d'Azur, la radio va augmenter le prestige de la principauté. Mais ça, on peut en être certain. Voilà ce que dit le vice-consul de France à Monaco, Olivier Delot. Radio Monte Carlo était une entreprise de collaboration. C'était une société monégasque présidée par un président monégasque, de droit monégasque, et un conseil d'administration franco-allemand. Les Allemands s'étaient réservé la partie technique du poste et la partie programme et émission était faite par les Français, le directeur général étant français. Tout s'accélère à partir de cette période. Le 10 juillet, les Américains débarquent en Sicile. Ça se rapproche, si je puis dire. 15 jours plus tard, vous savez que Mussolini est destitué. Et dans la nuit du 31 juillet au 1er août 43, des formations militaires allemandes, à peu près vers minuit, en plein cœur de la nuit, les Allemands arrivent donc en principauté de Monaco. Le lendemain, la police monégasque évalue à 500 le nombre d'Allemands qui sont déjà arrivés à l'intérieur de la principauté. Les Italiens sont complètement perdus, ils organisent des rafles, d'ailleurs on va y revenir là dans un instant. Le 3 septembre 43, au nom du roi d'Italie, au nom de Victor Emmanuel, l'armistice est signé avec les Alliés. Voici ce que nous dit Pierre Abramovici. 5 jours plus tard, l'armée allemande envahit l'Italie et remplace en France les troupes transalpines qui se débandent et rentrent en désordre dans leur pays, abandonnant souvent sur place leur matériel et leurs armes. Dès 19h, quelques incidents sans gravité se produisent entre Français et Italiens présumés fascistes de Monaco. Au cours de la nuit et pendant toute la matinée du lendemain, les troupes italiennes refluent en désordre et dans l'après-midi, à 14h, les premières formations allemandes font leur entrée en principauté. On peut parler à ce moment-là de la deuxième occupation de Monaco. Bonjour Pierre Abramovici.
Bonjour.
C'est un épisode seulement de cette période très passionnante que je viens de raconter à grands traits. Nous allons revenir avec vous sur cette occupation italienne et puis bien sûr sur l'occupation allemande qui lui a suivi de près.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le rocher occupé est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le journaliste et historien Pierre Abramovici, auteur de Monaco sous l'occupation, paru au Nouveau Monde édition.
Alors, la principauté de Monaco au début de la guerre est neutre, disons-le, Pierre Abramovici. Ça n'est néanmoins pas une neutralité tout à fait équilibrée. On va y venir dans un instant. Et puis, il y a cette période d'occupation italienne à partir de novembre 42. Et dans le courant de l'année 43, les choses se corsent pour les Italiens et on va voir donc les Allemands prendre la relève.
C'est exact. Alors, en fait, techniquement, Monaco est toujours neutre. C'est même assez surprenant, c'est-à-dire que Monaco va être le seul pays occupé par les Allemands pendant toute la durée de la guerre, dont les frais d'occupation vont être remboursés par l'armée allemande au gouvernement monégasque. C'est assez surprenant. En vérité, les Allemands ont un dessein. Ce dessein est donc de faire transiter par la principauté, par ses institutions financières et les holdings qui vont se créer. On va passer d'une trentaine de holdings en 1940 à 278 à la fin de la guerre.
Ce chiffre, à mon avis, est très éclairant. On multiplie par 10.
Absolument. Et l'idée, c'est de faire transiter cet argent et toutes ces valeurs qui ont été volées dans toute l'Europe et de les faire partir vers les pays neutres. Il y a plein de plans qui sont mis en place. Il y a une quantité phénoménale de gens qui arrivent. Par exemple, de Monaco, 148 000 camions partent vers je ne sais où. Ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'aucun camion n'a jamais transité par la principauté. Monaco va être le premier producteur mondial de vin.
J'avais commencé tout à l'heure, oui, c'est un peu extravagant quand même. Donc on est vraiment dans le grand négoce là, d'une certaine manière.
Mais c'est
j'avais commencé tout à l'heure mon petit récit par la visite impromptue de Hermann Göring juste avant la guerre à Monaco. On était en train d'organiser déjà, avant même que la guerre ne commence, les Allemands organisaient déjà leur petit trafic là.
Ça a même commencé l'année d'avant encore. C'est-à-dire que dès 1938, les Allemands voient que la principauté crée ce qu'on peut appeler le régime des holdings. Et en fait, il y a quatre pays en Europe qui le font. Et la principauté devient tout d'un coup extrêmement attractive. Alors, les Allemands essayent de créer une monnaie qui soit séparée du franc. Naturellement, Paris est totalement contre, ça ne marche pas. Ils cherchent déjà à créer une radio privée, ça ne marche pas. Ils cherchent à créer une banque, ça ne marche toujours pas parce que Paris n'est pas d'accord. On change évidemment de situation en 40.
Eh oui.
Vichy a un homme dans la place. Cet homme, c'est le Premier ministre, qu'on appelle là-bas le ministre d'État, Émile Roblot. C'est un haut fonctionnaire qui est, on va dire, fidèle à sa fonction, mais qui va changer de nature au fur et à mesure du temps. Et en particulier, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que vous prenez Laval ou Pétain, quand ils collaborent, ils le disent. Lui, quand il collabore, il l'écrit, mais il le dit pas. Ce qui fait que les monégasques ignorent totalement que le ministre est en train d'installer la collaboration institutionnelle sans que quiconque le sache. Et deuxièmement...
C'est pour ça que je parlais d'une neutralité très particulière.
Tout à fait. Et deuxièmement, il fait un coup d'État dont personne n'a jamais entendu parler. D'ailleurs, la plupart des gens ne le savaient pas, et moi non plus, avant de trouver ça dans les documents.
Vous avez découvert.
C'est qu'en fait, il obtient, comment dirais-je, à titre personnel, de devenir le régent du jeune prince régné qui n'est pas encore prince, ni même en devenir. Il a 16 ans à ce moment-là, au début de la guerre. Il va en avoir 20 à la fin de la guerre. Il va devenir en quelque sorte son régent jusqu'en 1953. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de contrôler le pouvoir jusque 10 ans après ce que nous savons maintenant être la fin de la guerre. En d'autres termes, il a le pouvoir total, le contrôle absolu, et il va même obtenir... Alors, il faut préciser que le prince Louis est un homme âgé à cette époque, 70 ans, il a 70 ans.
Le prince Louis, c'est le prince régnant.
C'est le prince régnant, c'est un très grand âge. C'est un homme qui est un grand vieillard à cette époque-là et qui a d'autres préoccupations qui correspondent à son âge. Et
donc, en vérité, il ne réside pas tellement à Monaco, du reste.
À cette époque, il y réside, oui.
Si, à ce
pendant la
là,
guerre.
Oui.
Il n'y réside jamais avant, mais pendant la guerre, oui. Et ce qui se passe, c'est que Louis délègue à ce haut fonctionnaire français, en quelque sorte, l'autorité, et il ne voit pas du tout passer, si j'ose dire, ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que la principauté se transforme en allié clandestin de l'Allemagne, et tout précisément du ministère des Finances allemand, c'est-à-dire de Göring.
Alors pourquoi les Italiens ?
Les Italiens, c'est un problème, c'est-à-dire que, il faut imaginer, nous sommes ici dans le nord de la France, sur la Côte d'Azur, imaginez un rectangle qui part en gros de Cannes jusqu'à Menton, où l'histoire de la Seconde Guerre est complètement différente de celle que nous connaissons partout ailleurs.
Ce qu'on ne sait pas toujours, entre nous.
La ville de Menton a été annexée. Elle est devenue Menton et d'Italie pendant 2 ans.
Cette Mussolini annexion... en a fait une ville italienne. Enfin, cela dit, elle l'était un peu de culture déjà depuis longtemps.
J'entends,
enfin,
mais
ça,
là,
c'est un autre sujet.
On a supprimé pour moi simplement la France. Donc, c'est d'ailleurs la seule victoire militaire des Italiens. Les Italiens avancent de plusieurs kilomètres et tout d'un coup, la frontière italienne est à 6 kilomètres de la principauté. Ça change tout. Les fascistes à Monaco représentent une force extrêmement importante, en ce sens que les immigrés italiens sur la Côte d'Azur, qui sont très importants depuis les années 20 à peu près, représentent, à titre de comparaison, 17,4% d'adhérents du Parti National Fasciste en Italie, dans la botte. 21,8% je crois à Nice et 28,4% à Monaco. Et si vous rajoutez les sympathisants, en gros la moitié de la population italienne de Monaco est sympathisante ou adhérente du Parti Fasciste.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont pauvres, qui ont été maltraités et qui donc trouvent à la Casa Italiana, dont vous avez parlé, je dirais une sorte de refuge, un lieu culturel, un lieu, y compris une soupe populaire. Et donc ces gens adhérent du parti fasciste, mettez-vous à la place d'un monégasque, nous sommes tous les deux, vous et moi, moi je suis italien, vous êtes monégasque, on se parle, je connais vos enfants, votre famille, on va manger tous les jours, et soudain, voilà. Je me transforme en brute à chemise noire, une matraque à la main, après 20 ans de cohabitation, et ça arrive à partir de 1940.
Et tout ça était quand même préparé, parce que comme je le dis, on avait mis les drapeaux de côté, on avait organisé même des caches d'armes, etc. C'est-à-dire que les fascistes se préparaient depuis longtemps.
C'est même très surprenant, c'est que l'un des chefs du parti fasciste local est un prêtre, qui s'appelle le père Arici, oui. Pacifique Arici, c'est son nom, et qui d'ailleurs, par parenthèse, aura par ailleurs un comportement assez extraordinaire, puisqu'il va sauver 176 juifs qu'il va convertir faussement. Mm-hmm. C'est assez curieux. Mais en même temps, les Italiens ne sont pas antisémites, ce sont les Allemands qui vont le faire.
Oui.
Et donc, ces fascistes sont une sorte de cinquième colonne locale. Quand les Allemands arrivent en 1943, qu'est-ce qui se passe? La moitié de la population italienne quitte la principauté. L'indice de population diminue de 50% au niveau des Italiens.
Incroyable.
Reste à Monaco, pas beaucoup d'Allemands, quelques dizaines en fait. Ceux qui sont passés vont s'en aller, il va rester quelques dizaines d'Allemands. Et en fait, ceux qui vont faire les supplétifs, policiers, militaires en quelque sorte, ce sont des fascistes fanatiques qu'on va garder, qui appartiennent à ce qui s'appelle la République de Salo, celle de Mussolini après. Ils vont rester sur place jusqu'en 1944 avec les Allemands. Et donc, en gros, si vous considérez la période fasciste inquiétante, 40-42, l'occupation terrible, où il y a eu des centaines d'arrestations.
À partir de novembre 42.
Novembre 42 jusqu'à 43, jusqu'à septembre 43. Mais aussi de 43 à 44, vous avez une permanence de l'activité fasciste et militaire au sein de la principauté, qui est absolument énorme, qui va faire, de manière assez surprenante, que sur, et c'est pareil pour toute la Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur, l'épuration après la guerre sera contre les Italiens et pas contre les Allemands.
Voilà, ça change complètement.
On va persécuter des gens parce qu'ils sont Italiens.
Et, oui.
Et alors le côté amusant, c'est que j'ai recueilli le témoignage d'un jeune homme à l'époque qui, effectivement, participe au saccage des magasins italiens. Et en fait, pendant toute la journée où les Italiens s'en vont, on ravage les magasins, on les casse. Et alors il dit, on est en train de tout casser, les policiers monégasques mettent des rubans pour que personne ne pille les magasins. Ils ont cassé quelque chose comme 50 ou 60 magasins. Et puis au moment où on est en train de tout casser à coups de barre de fer, soudain on entend une grande pétarade, on voit arriver un char, un Allemand. L'Allemand dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et alors il dit, il y en a un qui a eu une bonne idée, il dit à l'Allemand « en fait, ce sont des traîtres, on les casse parce qu'ils ne veulent pas continuer la lutte et le char passe. »
Et donc on est quand même dans une sorte de confusion générale.
Totalement générale.
De la superposition non seulement de ces nationalités, mais des appartenances partisanes au sein de chacune de ces nationalités. C'est assez étonnant. On peut mettre les Allemands de côté, là. Hein. Je parle plutôt des Italiens et des Français, bien entendu.
Il y a peu d'Allemands dans cette
affaire. Oui, de toute façon. Alors, après septembre 1943, les Allemands se chargent eux-mêmes d'occuper Monaco.
Oui, mais donc aidés par ces supplétifs italiens. Par exemple, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres, comme partout. Vous savez, il faut les garder fermées pendant la nuit, etc. Les gens qui tirent dans les fenêtres quand une fenêtre est allumée, ce sont des soldats italiens, en fait. Donc ça reste, ils restent présents. Simplement, les Allemands veulent donc maintenir cette neutralité. Et cette neutralité fictive pour faire et mener leurs affaires. Ils vont le faire tout à fait de manière systématique. Des quantités de collaborateurs allemands ou de membres purement et simplement de l'armée allemande sont présents. La principauté va ouvrir, avec le ministre d'État, un consulat de Monaco en Allemagne qui a l'étonnante caractéristique d'être tenu par un lieutenant-colonel de l'armée allemande. C'est assez surprenant. Et comme caractéristique d'autant plus surprenante, cet homme a 70 ans et plus. Et en fait, il est financier de son État. En fait, tout autour, la principauté est entourée de gens qui sont de près ou de loin liés au marché et à la finance. Parce que le but des Allemands est toujours celui-là, maintenir cette neutralité. Et il y aura également quelque chose qui est unique à Monaco, la question juive. Les juifs vont être arrêtés et déportés exactement comme en France, à peu près sensiblement dans les mêmes pourcentages. Ceux qui s'en occupent, ce ne sont pas les SS ou la Gestapo. C'est le ministère des Affaires étrangères, c'est le consul allemand. Monaco est neutre. Et les arrestations se feront avec la police monégasque, sous couvert, en quelque sorte, d'injonction des affaires étrangères.
On a toujours un peu de mal, lorsqu'on parle de cette Seconde Guerre mondiale, on a du mal à prendre la mesure des subtilités diplomatiques qui continuaient, qui se maintenaient au sein même des combats et au sein même des pires pratiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on essaie de maintenir un semblant de façade diplomatique. C'est le cas à Monaco, c'est le cas dans bien d'autres endroits.
Et par exemple, Radio Monte-Carlo ne dépend pas du ministère de la Propagande. Il dépend, pour les Allemands, du ministère des Affaires étrangères. Toujours Monaco neutre. D'ailleurs, de manière surprenante, Monaco va être le seul endroit pendant toute la durée de la guerre, entre 1943 et 1944, où on va entendre du jazz.
Alors on a énormément de choses à évoquer. J'aimerais qu'on revienne bien entendu sur le cas des Juifs, sur l'appartenance des résistants à quel réseau, d'où venait-il, comment elle s'est organisée cette résistance, et puis la libération de Monaco qui là encore nous réserve un certain nombre de surprises.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La fin des années 30, l'orchestre de Glenn Miller sur Europe 1 avec le standard jazz américain. In the Mood, le rocher occupé est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le journaliste et historien Pierre Abramovici, auteur de Monaco sous l'occupation, paru aux éditions du Nouveau Monde.
Alors, il faut dire que ce livre, qui est un beau livre, qui est un livre illustré, très, très agréable à feuilleter, ce livre est un travail fondamental, car c'est le premier livre sur l'histoire de Monaco pendant l'occupation. Pierre Abramovici, comment avez-vous pu avoir accès à ces archives? Comment est née votre démarche?
Alors d'abord, ce n'est pas le premier, c'est le second. Le premier, je l'avais déjà écrit il y a une quinzaine d'années.
Oui, mais il était beaucoup plus parcellaire, si je puis dire.
Il était beaucoup plus parcellaire parce que, il faut préciser, le prince Rainier, qui à l'époque était le chef de l'État, était un acteur de cette époque. Et pour différentes raisons, et notamment une qui était de ne pas réveiller un certain nombre d'antagonismes internes dans la principauté, il était très mécontent, je suis né à Monaco, que quelqu'un lié et né en principauté, en quelque sorte, révèle, si j'ose dire, des mauvais aspects de la principauté. Et à l'époque, les seuls documents auxquels j'avais accès étaient les documents français, italiens et allemands, à l'exclusion complète des documents monégasques. Le prince Albert, à l'époque prince héritier, me fait savoir, et ça va durer comme ça plusieurs années, que le jour où il sera effectivement chef de l'État en charge, je pourrai accéder aux documents que je n'avais pas vus à ce moment-là. Il s'est trouvé que c'est effectivement ce qui est arrivé. Le prince Albert est un homme jeune, il n'est pas un acteur de la Seconde Guerre, et il considère toujours que cet épisode ne doit pas être un épisode caché, en aucune manière. Je lui ai dit, mais il y a des épisodes négatifs là-dedans.
Oui.
Ils disent pas grave. Dites les choses.
Oui, il faut tout expliquer.
Il faut dire les choses qui sont positives, la résistance notamment des édiles qui ont essayé d'empêcher les lois, par exemple, anti-juives, la résistance politique, et puis les aspects négatifs, c'est-à-dire la collaboration économique ou la déportation des juifs. Il faut tout dire. D'ailleurs, il met en place, il y a 3 ou 4 ans, une commission pour la récupération, en quelque sorte, des biens juifs, pour à la fois pour permettre aux familles encore en vie de pouvoir récupérer quelque chose. Et puis d'autre part, il a effectivement fait un acte de repentance officiel, c'est-à-dire qu'il a fait comme Jacques Chirac ici à Paris, il a dit voilà, c'est vrai, c'est arrivé, et je m'en excuse.
Mais d'ailleurs, le prince Albert II préface votre ouvrage, donc on peut presque parler d'un travail de recherche dans les archives qui est un travail autorisé d'une certaine manière.
Il est complètement autorisé, le prince, donc on est en 2007-2008, me donne une autorisation, je cite, sans réserve, pour accéder à toutes les archives de la principauté. À ce jour, je suis d'ailleurs le seul à pouvoir y accéder.
C'est formidable, oui.
C'est formidable, et donc le problème, c'est que n'existant pas d'archives nationales, je mets à fouiller les placards, les combles, etc. Et je tombe sur des quantités de documents que vous avez sous les yeux, qui font découvrir un aspect qui est un aspect différent de celui que j'avais fait avant. C'est-à-dire que les documents français, disons, ce sont ceux du consul de France ou du ministre ou d'un ambassadeur ou ce genre de choses. Donc ils sont institutionnels. Les documents monégasques vous font découvrir un aspect local qui n'existait pas, c'est-à-dire ce que pensaient les gens, comment ils vivent, la vie quotidienne au jour le jour, leurs privations, etc. Et à ce moment-là, j'avais également fait une émission de télévision qui avait été d'autant plus mal reçue que quand vous avez effectivement votre grand-oncle en chemise noire en train de défiler dans les rues de la ville, c'est pas terrible. Donc ça a été mal reçu sur Arte en plus. Donc les témoins, j'y suis revenu. Et ils ont accepté en fait. Et le prince a demandé que nous fassions avec un collègue. Et nous avons fait 48 interviews de personnes dépassant 90 ans qui ont raconté en fait leur histoire. Et donc le livre est un mélange entre les documents nouveaux,
les témoignages
qui sont des témoignages complètement nouveaux. Certains n'étaient pas nouveaux, par exemple Gérard Houry, c'est un témoignage que j'avais recueilli avant son décès, qui est très émouvant au demeurant. Et il faut le dire, ce n'est pas là, mais Gérard Houry, quand j'ai fait son interview, c'était une interview pour le film. Donc je coupe la caméra et Houry écrase une larme, il pleure. Je dis mais pourquoi? Il me dit, vous savez, comme juif, je n'ai pas pu déclarer ma fille, Danielle Thompson, à la mairie. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai encore en moi, quoi. Et il me dit, et j'ai pensé que c'était vrai, Rabbi Jacob, j'aurais pas fait si j'avais pas eu cette histoire à Monaco pendant la guerre. Il est resté juif grâce à cet épisode-là. Ils ont fui et son témoignage est assez terrible. Il y a une rafle qui était assez terrifiante. Il l'a décrit de manière assez détaillée et il fuit en disant « ça y est, les Allemands sont arrivés ». En toute probabilité, ce n'est pas les Allemands qu'il a. Mais ce n'est pas grave, il le croit et c'est ce qu'il pense.
Est-ce qu'on peut dire d'une façon générale qu'il y a eu une résistance? Alors bon, il y a les réseaux de résistants, j'en ai dit un mot tout à l'heure. On peut peut-être d'ailleurs préciser qui ils sont, les résistants à Monaco.
En gros, ils sont trois groupes. Oui. Vous avez, je dirais, les gaullistes. Ils sont très peu nombreux, très institutionnels, parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de gaullistes. Vous avez une résistance qui est très liée au service de renseignement britannique et qui fait de la résistance, alors les renseignements dont vous avez parlé, mais aussi les réseaux d'évasion.
Très efficace.
Et ils font un truc incroyable qu'on appelle l'évasion du fort de la Revers. Ils font évader des dizaines d'aviateurs anglais. Le côté rigolo, si j'ose dire, c'est que la tête de liste de la résistance anglaise à Monaco, pour ce réseau, ce sont deux vieilles dames de 70 ans qui tiennent un salon de thé, et ces deux dames vont gérer des dizaines d'aviateurs dans le rêve d'aller boire un coup et d'aller au casino. C'est assez amusant. Ces dames vont d'ailleurs être décorées à la Libération, et ce réseau est très très efficace. Et puis vous avez ceux qui sont en fait la véritable résistance au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire armée, qui n'agit pour ainsi dire pas en principauté. Il y a très peu d'attentats, vous l'avez vu, et il ne se passe pas grand-chose à Monaco même, mais tout autour, c'est la résistance communiste, et c'est le problème de la principauté. À Monaco, avant-guerre, vous avez une grève générale faite par les communistes. Le gouvernement monégasque apprend entre 1937 et 1940 que 20% des carabiniers, 40% des agents de police et la presque totalité des salariés sont adhérents du Parti communiste. On va retrouver la même proportion à la Libération et Monaco pendant 4 mois va être occupé militairement, si j'ose dire, par le Parti communiste.
Ça c'est quand même assez inattendu.
Totalement. C'est le Parti communiste français qui va empêcher les communistes monégasques de faire la révolution.
C'est quand même extraordinaire, ça, cette histoire.
Monaco, en quelque sorte, a été occupé 4 fois, en quelque sorte métaphoriquement.
Oui, oui, oui.
Une fois par les Français à travers le protectorat et le comportement du ministre d'État. Une fois par les Italiens avec brutalité et violence. Une fois par les Allemands de cette manière un peu étrange et, je dirais,
indirecte,
même s'ils étaient présents, bien sûr. Et par les communistes pendant 4 mois.
Incroyable. Ça fait partie des surprises, mais en feuilletant ce livre, on va de surprise en surprise, car vous avez énormément apporté d'éléments nouveaux, notamment sur le rôle des notables monégasques, des institutions qui servent de tampon en quelque sorte, ou de frein d'une certaine manière.
Comme vous le savez, structurellement, vous le savez, j'entends pas nos auditeurs, c'est que structurellement, le prince est en fait le chef de l'État au sens strict.
On va venir à la famille princière dans un instant, bien sûr.
En 1940, il n'est plus le chef de l'État. C'est-à-dire au sens où le ministre d'État, qui est donc à la tête.
Le fameux Roblot, Émile Roblot.
C'est un protectorat français. Le ministre d'État prend ses ordres à Vichy. C'est tout à fait normal, si j'ose dire, dans le cadre du protectorat. Il prend de plus en plus de place, c'est-à-dire que techniquement, au sens technique, on suspend la Constitution, on suspend les pouvoirs de l'Assemblée nationale locale qui s'appelle le Conseil national, la mairie. Ils sont dirigés, les édiles, par un avocat qui va devenir notaire par la suite, qui s'appelle Louis Aurélia. Aurélia est socialiste et il a été pendant longtemps anti-monarchiste. Et Aurélia, c'est un des hommes les plus importants de la principauté à cette époque, va fédérer autour de lui, et d'après ce que je crois, je ne suis pas sûr à 1000%, mais d'après ce que je crois et d'après les documents que j'ai recueillis pour Londres, en tant qu'intermédiaire pour les informations politiques dont vous avez parlé vers Londres, Aurélia va fédérer ses édiles et, je dirais, ses institutions monégasques autour de lui pour essayer de lutter, dans la mesure de ses moyens, contre les lois iniques et en particulier contre les lois anti-juives.
C'est assez... Là encore, on est en présence d'une situation un peu singulière, il faut le dire.
La loi anti-juive, par exemple, qui est la même que celle de la France, avec notamment la référence à la race juive qu'on trouve qu'en France, elle ne va en fait arriver, si j'ose dire, à exécution qu'avec un an de retard, parce que les édiles vont essayer d'empêcher par tous les moyens ça. Évidemment, au bout d'un moment, vous pouvez pas. Enfin, je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais
disons que oui, c'est un rôle de tampon, c'est pas un rôle d'empêchement. Alors, justement, venons-en au rôle personnel du prince Louis, parce que il a longtemps été, ce qui est tout à fait normal dans une monarchie comme peut l'être Monaco, il a été mis en avant. En fait, ce que vous montrez, c'est que très tôt dans cette affaire, il ne dispose plus des leviers de commande. Ce n'est plus lui qui est au pouvoir réellement.
Le problème, c'est que c'est un peu de sa faute. C'est-à-dire que le prince Louis, en fait, a abdiqué, sans le dire, dès la fin des années 20. En 1928, il y a une révolution à Monaco, dont personne n'a entendu parler, et d'ailleurs que j'ai apprise en l'occurrence au prince, il en ignorait l'existence. Les monégasques ont essayé de renverser la monarchie. Je vous passe les détails, mais le prince Louis était très effrayé.
C'est quand même curieux qu'on ait réussi à cacher cet épisode jusqu'à une époque aussi récente.
Oh non, non, c'est parce que tout simplement, il n'y avait pas d'archives. Pas d'archives et plus de témoins, donc on l'a oublié. C'est un épisode totalement oublié. Il y a tout de même eu une tentative d'investissement du palais avec
oui,
un or.
Enfin, c'est incroyable.
Donc le prince Louis signe secrètement une convention avec la France, qui va être les fameux accords franco-monégas de 1930, qui impose la totalité des hauts fonctionnaires et donc du ministre d'État dans la fonction publique française, géré par Paris.
C'est
avant
Paris,
c'était
oui,
un peu
voilà.
le cas, mais c'est Paris qui décide. Et il y a une clause secrète, si j'ose dire, c'est que en cas de pépin local, l'armée française va intervenir. C'est l'autorisation pour l'armée française d'intervenir sur place. Donc le prince se dessaisit de tous ses pouvoirs. En 1937, quand il y a la grève générale montée par les communistes, l'armée française intervient pour casser la grève et Roblot est nommé ministre d'État par le gouvernement pour casser la grève. Donc le prince abdique déjà cette souveraineté. L'autre chose, c'est qu'il est militaire et il est militaire français. Et il est personnellement très français. Il aime beaucoup la France. De surcroît, ce qui n'arrange rien, il a été subordonné du maréchal Pétain quand celui-ci était colonel en 14. Il a un grand respect pour le maréchal. Il l'aime beaucoup. Ce qui peut se comprendre entre frères d'armes. Le maréchal a 10 ans de plus que lui. Mais bien sûr, quand arrive la guerre et les Italiens qui deviennent une menace, il se tourne évidemment vers le maréchal
Vichy,
Pétain.
Bien sûr.
C'est normal. Donc, il a une confiance absolue dans son ministre d'État. Donc, il abdique d'autant plus ses pouvoirs auprès du ministre d'État. Et quand celui-ci fait son coup d'État interne en 1941, le prince n'a plus aucun pouvoir. Et pour finir, le prince donc est un homme très âgé. Encore une fois, 70 ans. À ce moment-là, c'est un âge très très avancé. Le prince rencontre une jeune comédienne, jeune qui a 45 ans, enfin jeune pour lui, et il vit une grande histoire d'amour, cet homme. Il faut préciser qu'il n'a jamais été marié, il a eu certes un enfant, la princesse Charlotte, qui est la mère du prince régné de la princesse Antoinette, mais hors mariage, il n'a jamais été marié de toute sa vie. Et tout d'un coup, cet homme qui a eu de nombreuses aventures, comme un peu le maréchal Pétain, ils ont ceci en commun, rencontre cette femme qui va être entre 1943 et 1945, pendant la période de la guerre, son unique point de préoccupation. Tellement unique, les Italiens envisagent de l'enlever, que les communistes locaux décident de le protéger. Et c'est tout à fait stupéfiant, c'est que les communistes qui veulent renverser la monarchie décident de protéger le prince contre lui-même et contre les Italiens.
Décidément.
Oui.
Les petits-enfants du prince Louis, c'est-à-dire la princesse Antoinette et le prince Régnier, vont avoir un rôle très important dans la fin de la période d'occupation.
Alors pour la princesse Antoinette, quasiment
pendant
début,
toute la période.
Toute la période. La princesse Antoinette, il faut le dire, ça je ne l'avais pas trouvé dans mon premier ouvrage et je l'ai trouvé là. Elle joue un rôle considérable puisqu'en substance, elle ravitaille la principauté. Sans elle, incontestablement, elle crée un truc qui s'appelle le comité monégasque d'assistance. C'est évident que les monégasques n'auraient pas eu à manger. Bien sûr, le marché noir permettait aux riches de s'en tirer, mais la plupart de la population non. Et donc, elle a permis aux gens d'être nourris. Elle a, par exemple, détourné de l'aide alimentaire des Américains qui devaient aller à Vichy pour en partie pour les monégasques. Elle a envoyé les enfants dans des colonies de vacances à l'étranger en Suisse. Elle s'est beaucoup, beaucoup dévouée. Elle s'est beaucoup démenée. Et de fait, quand il y a les bombardements à la fin, elle protège les monégasques en créant une sorte de tunnel sous le rocher pour permettre de faire un abri. Elle envoie de l'eau, de la nourriture alors qu'il n'y a plus rien du tout à manger. Monaco est complètement démuni à partir de la fin de l'année 43 puisque les bombardements ont coupé la ligne de chemin de fer et donc le ravitaillement. Donc la princesse Antoinette joue un rôle considérable pendant toute la durée de la guerre. Le prince Régnier est plus jeune. Pour dire les choses, il fait pas grand-chose pendant la guerre, c'est vrai. Mais enfin, il est tout jeune, il n'a pas l'âge. Il passe son bac en 1941.
Oui, voilà.
Et ce jeune homme, en 1944, si j'ose dire, fait l'acte politique fondateur de son existence par la suite. D'abord, il quitte le palais. Ça peut paraître bizarre, mais quitter le palais, c'est très important.
Voilà,
il quitte le palais avec sa sœur, il s'en va. Et il s'en va pour aller rejoindre la résistance. Alors le problème, c'est que la résistance ne veut pas de lui. Donc il passe une nuit à errer. Alors il faut imaginer la scène. Il pleut à torrents, il y a un orage monstrueux. La marine alliée, en l'occurrence des bateaux français d'ailleurs, bombarde les installations allemandes qui se trouvent au-dessus. Donc vous avez des éclairs, des coups d'obus. Enfin, c'est terrifiant. Vous avez des troupes allemandes, notamment des SS, qui sont dans les jardins, qui sont en train de partir. Et vous avez le prince Régnier avec sa sœur et trois domestiques, en quelque sorte, qui sont en train de chercher en ville un endroit où aller. Ils arrivent ce qu'on appelle dans un groupe qui s'appelle les jeunes monégasques, qui sont des amis intimes, qui pour certains ont un lien avec la résistance, notamment un qui s'appelle César Solamito, qui est lié, alors qui est le second d'un groupe de résistance important gaulliste. Et ils disent voilà, il faut aller voir Aurélia. Et Aurélia dit je veux pas les voir, parce qu'en fait c'est pas l'intérêt aujourd'hui de la résistance d'avoir cet homme-là qui arrive alors que les Allemands sont en train de partir, il faut qu'il rentre au palais. Et Régnier dit je ne rentre pas au palais. Il fait un acte fort, il reste. Et il décide, avec la résistance gaulliste, mais c'est à ce moment-là, le temps passant, les jours passant, contre la résistance communiste qui s'installe, pour installer un geste fort en faveur de la monarchie, puisque la crainte, c'est qu'on fasse tomber la monarchie, il décide de lancer des tracts en ville en disant, en substance, il y a eu collaboration. Cette collaboration, je la désapprouve et je me mets au service de l'armée française, je redeviens un soldat français pour, comment dirais-je, pour contester en particulier Émile Roblot, le ministre d'État, qui est un traître en quelque sorte.
C'est quand même,
c'est considérable,
fort,
il a 21 ans.
Et c'est le début du parcours extraordinaire
tout
du prince Régnier.
Alors il va faire quelque chose d'assez assez amusant, j'ai trouvé ces documents assez récemment d'ailleurs. Le prince Régnier va même faire une mission pour le gouvernement français pour enquêter sur la collaboration économique à Monaco. Et il va le faire.
Mais c'est peut-être le plus important ça, parce que ce qu'il ressort de ce livre au final, c'est l'extraordinaire importance financière de Monaco pendant cette période de l'occupation. C'est un enjeu de ce point de vue, un enjeu géostratégique majeur.
Et hélas pour les monégasques, ils sont escroqués par Roblot.
Bah oui,
c'est pas de
oui.
chance. Roblot, pour sauver sa vie, parce qu'on veut le fusiller désormais, ce qui est assez logique
bah
et assez
oui,
normal.
Enfin bon.
Roblot fait une sorte d'échange avec la France. La France, de son côté, cherche à récupérer l'argent de la spoliation. Et l'argent qui a été volé par les Allemands. Donc, il y a à Monaco investi des milliards. Par comparaison, Skolnikov, vous vous souvenez, j'en avais
oui,
parlé,
bien sûr, oui.
À Paris, c'est 2 milliards. À Monaco, c'est 1 milliard. Toute proportion gardée, c'est 10 fois plus.
C'est gigantesque.
C'est gigantesque. La totalité ou presque de la principauté est entre les mains des collaborateurs et des Allemands. Donc les Français disent, c'est à nous. Et Roblot dit, d'accord, je vous le donne. En substance, il signe un accord. Il n'est plus ministre d'État. Il signe cet accord tout seul avec un officier de renseignement qui va être entériné par la suite seulement, 15 jours plus tard, par le représentant réel du gouvernement monégasque et par le représentant réellement du gouvernement français. Et la France obtiendra en contrepartie tous les biens allemands et les monégasques, rien.
J'avais promis à nos auditeurs que vous nous apprendriez des choses, Pierre Abramovici. Une fois de plus, vous avez été fidèle à votre réputation. Monaco sous l'occupation de Pierre Abramovici, avec une préface de son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco. C'est aux éditions Nouveau Monde.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Nous resterons en quelque sorte sur la Riviera, mais dans un tout autre contexte, puisque Franck Ferrand, vous nous raconterez les origines de l'expression « se faire dorer la pilule ».
Cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Mickaël qui vous demande, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission, d'où vient l'expression « se faire dorer la pilule ».
Alors, « se faire dorer la pilule », je vais y venir dans un instant. D'ailleurs, je signale pour ceux qui nous suivraient par Internet que j'ai des lunettes qui ne sont pas de soleil aujourd'hui. Et ça n'est pas un hommage à notre invité Pierre Abramovici, c'est simplement que j'ai des petits soucis d'allergie. Vous savez, c'est la saison, c'est normal, c'est les pollens. Donc, « dorer la pilule », ça, en revanche, est une vraie expression et qui fait référence à une pratique assez connue. Vous savez que les pilules au XVIe siècle, au XVIIe siècle, avaient souvent un goût, une texture un peu désagréable. Et on avait pris l'habitude, quand je dis on, chez certains apothicaires parisiens qui d'ailleurs faisaient, qui facturaient, croyez-moi, leurs tarifs, facturaient leurs services, on avait pris l'habitude d'enrober les pastilles, les pilules, d'une très fine pellicule d'or. Donc on dorait la pilule. On voit ce que ça veut dire. Ça veut dire améliorer les choses, les présenter de la façon la plus agréable possible, quitte parfois à falsifier la réalité. Se faire dorer la pilule, alors ça c'est pas tout à fait ce qu'on appelle un glissement de sens dans l'histoire de la langue. C'est plutôt une déformation analogique si on veut être très précis. C'est-à-dire qu'en fait, de l'expression dorer la pilule, on en est venu à parler de se faire dorer la pilule. C'est très familier comme expression pour dire tout simplement se faire bronzer. Il n'y a pas d'autre explication que cela, j'en suis désolé.